Donc, Yacine Kassi, bonjour et merci de nous accorder cette interview à ONU Info. Donc, vous êtes le créateur de Delix, l'ambassadeur digital des Nations Unies, et vous êtes aussi, je pense, le président de la Fondation Epinome. Vous lancez à Paris et dans 4 autres villes une grande campagne sur les objectifs de développement durable. Et peut-être, ben justement, vous pouvez nous en parler, nous expliquer en quoi ça consiste exactement.
Écoutez, c'est une espèce de coup du sort, du destin. Effectivement, vous savez, dans cette période de sortie de confinement post-Covid, on passe d'un monde à un autre et dans le monde d'avant, il y a ces espaces publicitaires qui sont en permanence en train de vendre des produits et des services. Et quand tout le monde va chez soi, ben, il n'y a plus de messages. Donc, dans cet entre-deux, il y a la régie Média Transport, en l'occurrence, qui gère effectivement les métros de 4 villes, mais également les gares SNCF de tout le réseau français. Donc, on va retrouver la campagne dans toute la France, qui a décidé de mettre à disposition ces espaces à un certain nombre d'ONG, dont la Fondation Unix. Et elle nous a mis à disposition l'ensemble de ces 2000 écrans donc sur son réseau de diffusion. Et donc, évidemment, l'occasion était trop belle et le timing incroyable pour mettre en relation cette sortie de confinement avec le plan qui est déjà sur la table depuis 5 ans, les objectifs de développement durable, dont Elix fait la promotion, évidemment, depuis le tout début.
Mais pourquoi cette campagne maintenant, justement? Pourquoi c'est si important d'avoir cette campagne maintenant, alors qu'on est presque sorti, surtout dans certains pays d'Europe, du confinement, justement?
C'est important parce que, d'abord, au niveau de la campagne, l'absence d'annonceurs a créé cet espace, et donc c'est comme un sorte d'opportunité incroyable. Pour une part, les gens reviennent sur les réseaux, quels qu'ils soient, dans la rue, dans le train, dans le métro, l'activité reprend peu à peu. Mais également, on se pose des questions, puisqu'après 2 mois de confinement, on se rend compte qu'il y a peut-être d'autres façons de fonctionner, on se rend compte que le télétravail est peut-être une solution, ce qu'on est en train de faire en ce moment pour un certain nombre de tâches. On se rend compte que peut-être la crise n'est pas que une crise sanitaire, mais également une crise environnementale, une crise sociale qui génère également une crise économique, et que peut-être même le fait qu'on se soit approché si près d'un virus qui aurait dû rester dans le monde animal et dans le monde sauvage, si l'humanité ne s'était pas approché à ce point pour créer cette énième zoonose, ben, tout ça, ce sont des causes économico-sociales qui deviennent des causes sanitaires. Donc, il y a une réflexion qui a été menée, parce que d'abord, les gens ont du temps, ont eu du temps, ont pu réfléchir, se poser la question, et puis a émané une sorte d'idée que cette pause, ce temps de pause pour l'humanité était peut-être aussi un moment de remise en question pour peut-être ne pas redémarrer exactement comme avant, et que ce qu'on considère comme un retour à la normale serait en fait un retour à la normale. Parce que effectivement, un certain nombre de choses ne fonctionnaient pas forcément très bien, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait les ODD sur la table depuis déjà 5 ans. Donc c'est pour ça que le timing est juste parfait.
Et comment peut-on y arriver? Est-ce que justement, grâce à cette campagne, on peut aider à aspirer à un monde différent après ce confinement?
Alors d'abord, ce qui se passe en France, et je pense dans un certain nombre de pays, c'est que l'opinion publique et évidemment les médias ont créé un espace de réflexion en ce moment sur qu'est-ce qu'on fait après. Il y a eu énormément de tribunes qui sont sorties pour réfléchir sur le monde d'après, donner des solutions, etc. Donc c'est-à-dire, il y a une émergence, une envie d'autre chose. Il y avait déjà une envie d'autre chose latente avant la pandémie, mais ce temps de pause, c'est comme une espèce de chrysalide dans lequel le ver s'est mué comme ça, avec les ailes qui poussent, qui ont envie de pousser. Et du coup, on a eu aussi des propositions qui sortaient de tous les côtés. Et à un moment donné, les gens qui travaillent sur les ODD, forcément, on se dit, un plan, c'est pas la peine de réinventer la roue. Il en existe une. Le plan a déjà été signé par les 193 pays membres des Nations Unies. Il est complet, c'est-à-dire qu'il va recouvrir l'ensemble des sujets dont on parle aujourd'hui, hein, que ce soit le rapport à la biodiversité, la protection de la biosphère, évidemment la question climatique cruciale et qui va être méga pandémie si on ne fait rien, si on continue à être trop lent, mais également les questions de l'économie inclusive, hein, de l'économie circulaire, les énergies renouvelables et de cesser de favoriser les énergies fossiles, et tout le volet social qui a éclaté pendant cette crise, que ce soit évidemment les inégalités, mais aussi la question de la pauvreté, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas du tout égal dans une situation comme celle-ci, et d'autres questions comme celle de l'éducation. On a vu aujourd'hui l'UNEP, pour la première fois cette année, on risque d'avoir une note de développement inférieure à l'année précédente, notamment sur la question de l'éducation des enfants, mais aussi sur l'égalité homme-femme. Et on a vu à quel point il y a eu des situations critiques aussi pour les violences faites aux femmes. Donc, en fait, tous les sujets, si on pointe l'ensemble des 17 points des objectifs de développement durable, ils sont tous cartes rouges, ils ont tous été des points de contact. Sauf que le process, la manière d'y arriver dans les objectifs de développement durable est d'avoir une approche holistique et globale. Ce n'est pas de traiter un problème après l'autre dans son coin sans consulter les autres. Et ce plan, il existe déjà, et pour les États qui le mettent en œuvre, en fait, il fonctionne. C'est-à-dire qu'on a vu pendant la crise des initiatives qui sont autant d'exemples concrets de la manière dont les ODD fonctionnent. Quand on voit un industriel, par exemple, français, qui met à disposition de Fab Lab l'ensemble de ses masques de plongée, Décathlon pour ne pas le citer, des masques qui sont conçus pour plonger dans la mer et qui sont transformés grâce à l'ingéniosité d'ingénieurs dans des Fab Labs avec des pièces qu'ils ont imprimées en 3D et qui vont servir directement des hôpitaux publics dans des endroits qui en sont en manque total de respirateurs et auxquels finalement les États sont débordés, n'arrivent pas à donner de réponse, ou la façon dont les masques, les filières de masques ont été créées par des couturières indépendantes qui se sont auto-organisées avec les réseaux, etc. Toutes ces interactions, toutes ces formes de partenariat spontané, public-privé, qui ont répondu à des questions très concrètes de la vie des gens, c'est autant d'illustrations de la manière dont on doit régler l'ensemble des problèmes de manière globale d'ici 2030. Donc ça donne un espoir. Et pourquoi c'est important? Un pays comme la France, par exemple, il n'y a que 11% des Français qui connaissent les ODD. C'est les chiffres de Focus 2030, qui est un de nos partenaires sur l'opération, un partenaire capital sur l'opération, et avec qui on travaille également sur le compte à rebours pour septembre. 11% des Français, alors que le plan existe depuis 5 ans. On aurait pu s'attendre, à partir du moment où le plan a été signé, comme c'est le cas par exemple pour les accords de Paris, qu'il y ait une grande communication. On pourrait s'attendre que l'ensemble des ministres du gouvernement portent cette roue que connaissent tous les promoteurs et cette communauté ODD. On est devenu une communauté alors que le plan appartient à tout le monde. Pourquoi est-ce que tous les membres du gouvernement n'ont pas à minima ce signe? Le plan a été signé au plus haut rang de l'État, donc c'était pas une signature en l'air parce qu'on passait à New York ce jour-là et qu'il faisait froid dehors et on est rentré, on a signé. Non, ça nous engage. Donc, c'est des petites choses comme ça qui font que si la population, si la société civile comprend qu'il y a un plan, que ce plan est bon, qu'il les inclut et qu'il peut faire changer les choses, tout le monde suivra. Donc, si on passe, par exemple, de 11% de la population à ne serait-ce que 20 ou 25%, c'est une énorme différence. Prenez les entreprises, par exemple, parce que les entreprises, pareil, les ODD sont designées pour elles. Les ODD, c'est un cadre, c'est-à-dire ça nous offre un objectif. Ça ne nous dit pas nécessairement comment y arriver. Mais comment y arriver, c'est de la politique publique, c'est de l'innovation, c'est des changements d'indicateurs. Donc, on a déjà des indicateurs dans les ODD, mais de faire comprendre à une entreprise, et il y a énormément d'entreprises qui ont déjà fait ce pas, ce travail sur la notion de RSE, de la raison d'être, etc., mais qu'en intégrant les ODD dans leurs indicateurs, c'est-à-dire que, par exemple, on parlait de l'ODD numéro 5 sur l'égalité homme-femme, combien de femmes dans votre assemblée générale? Ce type d'engagement qui sont pris sur l'ensemble de la route des 17 objectifs, ça change complètement la stratégie d'une entreprise. Et si une entreprise, elle est récompensée d'année après année parce que justement elle soutient ce plan, et il y a beaucoup d'entreprises qui s'y engagent, c'est des choses qui peuvent nous permettre d'aller très rapidement et en tout cas de réussir ce pari qu'on a devant nous. 10 ans, c'est pas rien, mais ça va aller très très vite, et donc il faut commencer dès maintenant le plus vite possible. Donc cette campagne, elle va dans ce sens-là, une sorte de starter.
Et donc, comment ça s'est lancé, cette campagne? Comment, d'un seul coup, c'est Paris qui a commencé à vous contacter? Comment ça s'est déroulé, justement, pour lancer cette campagne?
Alors, la genèse, c'est donc une régie publicitaire qui s'appelle Média Transport, donc qui gère ce réseau des gares et des métros, qui a pris la décision de, en fait, qui a choisi un certain nombre d'ONG sur différents sujets pour occuper ces espaces publicitaires le temps que les annonceurs traditionnels reviennent. C'est-à-dire, au lieu d'en faire un manque à gagner et de dire, ben là, ce mois-ci, à cause du Covid, on va perdre temps. Ils ont eu cette idée, il faut saluer, hein, parce que ça fait partie aussi de ces initiatives et des partenariats publics-privés, de se dire, ben non, finalement, ce temps, on va le mettre à disposition des entreprises et des fondations, des associations qui ont une utilité publique. Donc, ça fait un moment qu'elle pensait à Elix. Elix a fait déjà pas mal de choses dans le métro, mais sur les réseaux sociaux, etc. Et ils ont contacté la Fondation Elix pour nous proposer de poster un message, a priori sur les écrans, parce que c'est vrai qu'Elix a ce côté assez dynamique et qu'il peut s'adapter un peu. C'est un ambassadeur virtuel, hein, donc un écran, c'est aussi quelque chose de virtuel. Et donc, on a évidemment tout de suite fait le lien avec les ODD et cette campagne Ten to Go, qui était préalable, mais qui évidemment trouve une résonance très particulière en cette sortie de confinement et à quelques mois surtout de ce qu'on appelle plus nous un anniversaire, les 5 ans des ODD, mais un compte à rebours, 10 ans pour agir, 10 to go, les 10 ans qui nous restent pour réussir à atteindre ces objectifs. Donc du coup, on a fait la proposition, ils ont adoré, on a travaillé ensemble très très rapidement, puisque tout s'est fait dans des délais très courts, ce sont des vidéos très courtes, très dynamiques, mais je pense que tous les gens qui prennent le métro ou le train la verront en France. Et peut-être ailleurs, hein, puisque nous, on met les fichiers à disposition. Donc, si d'autres régies dans le monde veulent les fichiers, on fera les traductions et c'est à vous, comme le dit le slogan.
Donc, vous avez différentes campagnes, justement, à la Fondation, dont une des campagnes, c'est « Ten to go ». Donc, vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ?
Alors, la campagne « Ten to go », qui, encore une fois, est en open source, hein, donc à partir de maintenant, c'est votre campagne, c'est simplement l'idée d'inverser le principe d'anniversaire, puisqu'on arrive aux 5 ans des ODD, et en fait, nous, on renverse le compte à rebours, le fameux sablier, en disant « Non, c'est pas 5 ans, on a signé à 5 ans, mais il ne reste plus que 10 ans ». Et en fait, ça nous permet aussi de focaliser sur ce chiffre 10, qui est extrêmement fort, symbolique, beaucoup plus facile à retenir que les 17 objectifs de développement durable, qui sont toujours une difficulté en fait pour dans la communauté ODD, parce que 17 c'est trop pour être de la com et c'est pas assez pour rentrer vraiment dans le contenu où on rentre dans les 169 cibles, etc. Donc on focalise sur ce chiffre 10 et en fait on décline la campagne de manière thématique, c'est-à-dire qu'on a créé un premier volet sur le climat. Pour le sommet climat des Nations Unies du 23 septembre dernier. En fait, on est reparti des 9 thématiques du sommet et on en a fait des planches extrêmement faciles à comprendre selon nous, la double raison d'être de la Fondation Elix, cette notion décomplexifier, décomplexer. Décomplexifier parce que les sujets dont on parle sont complexes, mais ils appartiennent quand même à tout le monde, donc il faut affronter cette complexité et la rendre accessible et décomplexer, c'est qu'on s'autorise à aborder le sujet. Je ne suis pas spécialiste de la finance internationale, mais la finance verte est un sujet qui va m'impacter. Donc, Elix, il sert à ça. Si je vois ce petit bonhomme souriant, sympathique et rigolo sur un sujet comme la finance climatique, pourquoi pas moi ? Et donc, si on déroule, on va montrer la situation initiale, c'est-à-dire la situation dans laquelle on est aujourd'hui par rapport aux inégalités, la pollution, les engagements, etc. Les leviers de changement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire entre aujourd'hui et 2030 pour y arriver. Et puis, au final, les objectifs. Et les objectifs, ils sont définis par les ODD. Et donc, cette structure en 3, elle permet de placer un espace important sur les enjeux et les leviers, puisque les objectifs, c'est bien, il faut avoir un cadre, une feuille de route, mais c'est super important quand une entreprise, une collectivité ou un État, de se donner des moyens légaux, des moyens économiques, des moyens, des choix, en fait, des arbitrages qui doivent être faits pour atteindre ces objectifs. Donc, c'est de cette manière-là qu'on aborde les sujets, et donc on prépare des volets sur les grands sujets qui vont être traités dans les années qui viennent, que ce soit la biodiversité. Il y a un décalage là évidemment avec le Covid, mais aussi génération égalité sur l'égalité homme-femme, les océans l'année prochaine, etc. Notre volonté, c'est vraiment d'accompagner que personne ne puisse être laissé de côté également sur la compréhension et l'appropriation de ces sujets qui, encore une fois, appartiennent non pas que à des spécialistes, mais à l'ensemble des citoyens de la planète, comme Elix.
Et donc, pendant cette pandémie, justement, comment vous et Elix a contribué à informer les gens sur cette pandémie. Et je sais que vous avez été très impliqué, justement, dans tout ce qui est la désinformation sur le virus. Donc, qu'est-ce que vous avez fait exactement?
Alors, la première chose qu'on a faite vraiment dans les 15 premiers jours de la pandémie, la Fondation Elix a généré un document en libre accès. C'est-à-dire que c'est aussi la manière dont fonctionne la Fondation. On fait des documents qui sont mis en open source, dans ce qu'on appelle une give box. On l'avait fait déjà sur le dernier forum climat en septembre dernier. Et on a créé une planche qui s'appelle « Le Corona, moi, nous et le monde. Et après ?» Et en fait, c'était déjà pour expliquer très simplement le virus en lui-même, comment est-ce qu'il était arrivé parmi nous, dans l'humanité, en montrant comme ça ce chemin, la zoonose, le passage de l'animal à l'humain, comment est-ce que l'humain l'a transmis justement à travers son réseau, les conséquences, évidemment toute la partie sur les gestes barrières, sur les conseils de première nécessité. On était en début de pandémie, donc pour nous c'était important d'aller très très rapidement et de mettre ces informations à disposition du public, évidemment de tout faire vérifier par nos partenaires à Bruxelles, UNRIC qui font aussi partie de la campagne, et des stickers aussi qu'on a mis à disposition pour les réseaux sociaux pour que les gens puissent partager les gestes barrières, les 2 mètres de distance, se laver les mains, etc., etc. Mais aussi la santé mentale, prendre soin de soi, donner des nouvelles à ses proches, etc. Donc on a fait ce travail qu'on a lancé sur les réseaux sociaux et qu'on a mis en libre accès également sur notre site, qui ont été très très utilisés dans les réseaux scolaires notamment. On a fait énormément de visuels également pour remercier les soignants, pour remercier toute cette première ligne face au virus, pas uniquement les soignants, mais toutes les personnes qu'on entend tellement peu et qui sont tellement importantes dans la société, donc que ce soit les caissières, les livreurs, enfin toute cette population qui a fait tenir la société sur ses bras et qui en a payé un lourd tribut. Et puis, on s'est mis également dans ce mouvement qui n'est pas fini, qui est ces lives sur Internet, hein, ce qu'on est en train de faire, là, une interview avec ces moyens de communication, où on a pris part à la création d'un festival sur 2 jours, un festival qui s'appelait l'Académie du Monde d'après, qui a réuni plus de 600 000 personnes sur tout un week-end avec toute une équipe d'intervenants, de tables rondes, etc. Et suite à ça, on a également créé un live avec sur la notion des récits du futur, donc qui s'appelait la fabrique des récits. Et on prépare de nouveau avec Spark News, et on prépare également de nouvelles interventions de ce type-là, parce que je pense que la parole est en train de changer. C'est aussi quelque chose qui est un apprentissage de cette pandémie. Oui, effectivement, d'un côté, il y a ce problème des fake news, il y a les réseaux sociaux qui peuvent aussi être un vecteur de viralisation des poisons intellectuels, hein, des poisons mentaux, exactement comme fonctionne un virus comme le Covid, une fausse information qui est déployée, diffusée, etc. Et au final, des gens qui ne veulent pas nécessairement vérifier les sources, parce qu'à partir du moment où leur opinion est faite, ben, ils considèrent que ça devient la vérité. Et c'est un vrai problème, d'ailleurs je pense qu'on en avait déjà parlé, qui est au moins aussi grand que l'ensemble des sujets qui sont traités dans les 17 ODD, et peut-être que cette dimension devrait être plus forte, puisqu'on a vu que sur le plan politique, c'était aussi de nature à faire élire des personnalités politiques qui peuvent aussi utiliser ce type de phénomène de fake news. Donc c'est un vrai sujet sur lequel travaille l'UNESCO, hein, avec qui on est en partenariat également. C'est un sujet extrêmement important et capital dans les 2, 3, 4, 5 ans qui viennent. C'est-à-dire que si on ne règle pas la question des fake news, le danger sur la démocratie est encore plus grand que celui que les démocraties ont à affronter dans le cas où on n'aurait pas ces sujets. Parce que parler des ODD quand on est une démocratie, c'est une chose. Si les pays, les uns après les autres, tombent dans d'autres formes de gouvernement parce que, justement, les populations sont intoxiquées à longueur de journée par des fake news, on n'arrivera pas à régler les problèmes et on risque d'en entraîner de nouveau, de violence et de... Donc oui, c'est quelque chose qu'on prend très très au sérieux et qui est déjà un sujet de discussion internationale vraiment sérieux, mais il faut continuer le dialogue avec les GAFA, avec Mark Zuckerberg et compagnie, que vraiment ils comprennent leurs responsabilités aujourd'hui. Ils n'ont pas créé ces outils-là pour qu'ils deviennent ce pour quoi ils sont utilisés aujourd'hui. ils le disent eux-mêmes, donc il faut vraiment qu'ils fassent partie de la solution et qu'ils ne soient plus le problème.
Et peut-être dernière question, Yacine Aitakashi, comment Elix justement a vécu le Covid et comment voit-il l'après-Covid?
Alors Elix, il a l'avantage d'être extrêmement optimiste, donc moi il me fait beaucoup de bien. Elix, c'est pas moi déjà, vraiment, c'est qu'il a son protocole, il existe à part. Et donc, il est très optimiste. Comment il a vécu le Covid? Il a fait ce qu'il a pu, c'est-à-dire qu'il a essayé d'envoyer aussi de l'espoir à des personnes qui peut-être doutaient dans cette période-là et de se dire, regardez quand même cette opportunité incroyable qui se passe. On a les émissions mondiales de CO2 qui diminuent de 8%. On a des tortues qu'on n'avait plus vues depuis des décennies qui viennent au monde sur des plages en Inde, au Brésil. On a des gens qui se parlent à nouveau, qui redécouvrent leurs enfants, etc. Enfin, il y a eu quand même des points positifs, des points dont on peut tirer des enseignements. Et puis, ça nous place aussi devant un carrefour de se dire, ben, maintenant qu'on est à l'arrêt, comment est-ce qu'on redémarre? Est-ce qu'on veut vraiment redémarrer comme avant? Est-ce que justement on n'était pas en train d'essayer de sortir d'une situation et d'un virus nous-mêmes, c'est-à-dire nous comportant comme un virus pour la planète, de conciliation une fois pour toutes entre l'économie, l'écologie et la société? Est-ce que c'est pas justement le bon moment? Il y a énormément de bonnes intentions, on entend des bonnes intentions de tous les côtés, donc c'est le moment de dire oui, ben, si on veut réellement concilier ça, faisons-le. Il y a un cadre qui existe, qui s'appelle les ODD. Revoyons-nous en septembre, physiquement ou pas, à New York, parce que ça sera comme une sorte de plan Marshall de la sortie de Covid. Il ne faut pas oublier que quand les Nations Unies ont été créées, on sortait d'une autre guerre, cette fois entre les hommes, qui avaient mis le monde par terre. C'était 80 millions de morts à l'époque, 88 millions, quelque chose comme ça, qui nous a permis à la fois de signer la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui serait totalement impossible à signer aujourd'hui dans le contexte multilatéral actuel. Ça serait impossible de signer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ben, voyons, en septembre, revoyons-nous, posons-nous dans cette grande réunion de copropriété géante qui est l'Assemblée générale des Nations Unies et discutons de la façon dont on peut contribuer à la décennie de l'action, la décennie qui s'offre devant nous, en tirant les conséquences justement de ce qui est arrivé pour que ça ne recommence pas. En 1945, on disait « plus jamais ça ». En 2020, on a envie de dire « pas de retour à la normale, abnormale ». C'est de ne pas considérer que d'exploiter des ressources de la Terre plus qu'elle ne peut en produire ne soit une normalité, parce que c'est une normalité pour personne. On la paye très cher, on la paye très cher avec le Covid, mais j'ai presque envie de penser que c'est juste un signal d'alarme. C'est vraiment comme une opportunité que nous offre la nature et le vivant pour nous dire « attention, si vous allez trop loin, on sait se défendre ». Ça, c'est juste un avertissement, c'est déjà 300 000 morts, donc c'est lourd, hein, c'est un drame pour énormément de familles, c'est un drame personnel, mais c'est une goutte d'eau à côté de l'océan qui peut déferler si on continue en n'écoutant pas les signes qui nous sont envoyés, en pensant qu'on peut éternellement faire croître une économie et des énergies fossiles dans un monde qui a des limites physiques finies. On le sait depuis 1972, le Club de Rome, ça fait 50 ans qu'on tire la signal d'alarme. Il y a eu, voilà, maintenant on en est 25, 26, 27 COP. Combien de COP on va devoir réunir? Ce qu'il faudra attendre d'être à la COP 50, où on sera chacun dans des barques pour lever le doigt et dire oui, il se pourrait que l'augmentation du niveau de la mer soit plus haute que celle qu'on a prévue. Donc non, c'est le moment. On a une génération, là, vraiment, dans 10 ans, tout le monde sait l'âge qu'il aura. Je sais l'âge que j'aurai dans 10 ans. Ma fille aura tout juste 18 ans. C'est le moment, c'est-à-dire qu'on a 10 ans, ça va passer très très vite, mais si on veut avoir une chance de non seulement éviter les catastrophes dont je viens de parler, mais en profiter également pour rééquilibrer des injustices et des incohérences, en fait, qui sont totalement réglables. C'est que de l'interaction humaine. Ça ne nous vient pas du ciel comme un météorite ou de la nature comme le Covid. Il y a des choses qu'on peut régler entre êtres humains, à travers le multilatéralisme et à travers ces assemblées générales, avec l'aide des peuples, puisque justement c'est pour l'ensemble des peuples de la nation que sont signés ces plans et pour lesquels on souhaite évidemment ne laisser personne de côté et imaginer, rêver d'un avenir plutôt meilleur. Donc voilà comment on se situe, voilà comment Elix voit la suite, et il le voyait déjà comme ça en 2015, il le voyait en 2014 quand il a commencé à travailler avec les Nations Unies, et ça ne changera pas dans les 10 prochaines années. Au contraire.
Et vous avez un dernier message pour nos auditeurs et et toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui?
Le message, c'est le message de la campagne. Tout ce qu'on a réalisé et créé dans le cadre de cette campagne et tout ce qu'on a réalisé aussi déjà pour les ODD, c'est à vous. C'est-à-dire, c'est open source, utilisez-le. Il y a une gift box sur le site de la Fondation Enix et on les mettra à disposition de façon aussi de l'ensemble des partenaires. Il y a Focus 2030, UNRIC, la régie qui lance le dispositif. Je te les envoie également, Florence. On a cette logique de mise à disposition open source des contenus et des ressources parce qu'on sait que ça fait vraiment partie. Ce sont les petites armes qui permettent localement également de faire avancer les sujets. Et si des régies ou des pays autres que la France voulaient traduire et lancer cette campagne localement, qu'elle nous contacte. Nous, on a vraiment, évidemment, très envie de diffuser, de vous aider, en fait, d'aider tous les amis des objectifs de développement durable à pouvoir déployer le message le plus largement possible. On aimerait qu'à l'horizon septembre, qui sera ce fameux compte à rebours, on fasse augmenter significativement le pourcentage de la population qui se soit saisie de ce plan qui lui appartient déjà.
Donc, il faut qu'on y aille tous. On n'a que quelques années, disons 10 ans, n'est-ce pas, pour arriver aux objectifs de développement durable et espérons avant ça, n'est-ce pas?
10 ans, c'est l'objectif. Et pour y arriver, il faut commencer maintenant.
Ouais,
now.
Ouais, ouais. Même hier, n'est-ce pas?
Et oui, on est déjà très en retard. De 72, ouais. C'est un petit moment. J'étais même pas née.
Yacine, merci beaucoup pour cette interview. Toujours, c'est un plaisir de vous avoir.
Avec plaisir et toujours là pour servir nos causes.